moi, faites comme moi j'ai fait. Soyez comme je suis. Voilà, durant cette célébration, les ados restent avec nous. Je sais pas, ils sont pas nombreux d'ailleurs, ils sont partis déjà. Hein, ils sont tous là-bas. Coucou. Donc je vais essayer d'être pédagogique parce que le message est aussi pour vous. On en reparlera dimanche prochain. Parce que... ah. Tiens, dimanche dernier, avec les ados, on parlait de la souffrance, de l'action sociale, etc. Et je leur posais la question, alors répondez pas tout de suite, hein, mais je leur posais la question, quel est le premier geste d'action sociale de Dieu envers l'homme ? Qu'est-ce que Dieu a fait comme action sociale ? Le premier geste qu'il a fait ? Pas si vous savez. Pardon ? Changer l'eau en vin. Ah non, c'est je parle de l'Éternel dans ce cas-là, hein, et non pas de Jésus, mais... Pardon ? Il a habillé ? Il a habillé Adam et Ève, oui. Pardon ? Ouais, non, ça c'est pas vraiment une action sociale, pas en tout cas dans le sens où on l'entend. Non ? Non. Enfin, tout ça, c'est en même temps juste, mais en même temps pas la réponse que j'attends. Non, c'est... Oui, mais après qu'il écrit, c'est une action sociale. En fait, alors, est-ce que vous vous rappelez, les ados ? On les entend pas, ouais. Première action sociale de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Comme, qu'est-ce qu'on a dit dimanche ?
La bénédiction ?
Non. La première action sociale, de mon point de vue, ça peut se discuter, mais de mon point de vue, la première action sociale de Dieu vis-à-vis de l'homme, après la chute, c'est de lui dire « Où es-tu ?» afin de pouvoir rétablir le contact et le dialogue avec l'homme. Et nous savons, en ces temps où c'est si compliqué, les relations sociales, que ce soit au boulot ou ailleurs, que nous pouvons comprendre que le fait que le Dieu dise « Où es-tu ?» parce qu'il veut entrer en contact avec l'homme, parce qu'il y avait déjà l'homme et la femme se cachaient, c'était distendu de Dieu. Dieu vient en disant « Mais moi, je veux recoller les liens sociaux entre vous et moi, entre moi et vous. » Voilà, enfin, après ça se discute, hein, mais voilà, on a discuté de ça dimanche dernier. Je vous poserai la question un jour pour savoir si vous vous rappelez. Mais, bon, oups. Voilà, bon. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Cette semaine, je me suis posé une question saugrenue. Comme ça m'arrive de temps en temps, poser des questions. La question que je me suis posée, c'est quel rêve, au singulier ou au pluriel, Jésus avait quand il était sur Terre ? Oui. En tout cas, il faut se poser la question. Parce que si on ne se pose pas la question, on n'a pas de réponse. Mais c'est un peu bizarre, quoi. Hein. Je crois pouvoir dire que tout le monde, ou presque tout le monde, a des rêves. En tout cas, C'est quelque chose de saint dans le sens, non pas sainteté, mais c'est une bonne chose que d'avoir des rêves, des attentes et des espérances. Et ce, je crois, à tout âge. Alors il est vrai qu'à un moment donné, les rêves... arrivé à une centaine d'années, mais on peut en avoir quand même encore. Tout le monde a des espérances, des attentes, des rêves. Moi, j'aime bien Moïse, par exemple. Je suis quelque part convaincu que Moïse avait... depuis longtemps, le rêve d'être celui qui allait délivrer son peuple de l'esclavage. Il en a tellement rêvé qu'à un moment donné, quand il a pu, il a tué un Égyptien. Mais ce n'était pas la bonne méthode. Et son rêve s'est écroulé. Il a dû s'exiler. Mais 40 ans après, le Seigneur lui dit, maintenant t'es prêt, on y va. Et Moïse de dire, certainement, peut-être qu'il ne l'a pas fait comme ça, mais moi j'aurais peut-être dit à la place de Moïse, écoute, il fallait venir avant. Hein, voilà, depuis 40 ans, c'est terminé. Quoi. Le rêve est passé. On connaît la suite. David, avant qu'il ne soit roi, voyez-vous comment il est curieux et qu'il va voir Goliath, etc. Là, et puis quand il entend Goliath au milieu, qu'il le voit, etc., et qu'il entend ce qu'il entend, il rêve. Mais pourquoi ils ont tous la trouille ? Il faut y aller, quoi. Et lui rêvait déjà tout d'un coup, là, d'être au milieu et de dire, moi, je vais le tuer, ce gars-là, quoi. Arrête ton cinéma, ouais, c'est ça. Il rêvait, au point que ses frangins l'ont sermonné un peu. Tu te prends pour qui ? Allez, va chez le père garder les moutons. Pardon ? Même le roi, mais déjà ses frères, c'est... Il y a comme ça des hommes et des femmes dans la Bible qui ont des rêves. Je peux pas imaginer que les disciples ont été appelés par Jésus sans le connaître. Forcément, ils connaissaient Jésus pour entendre son appel et le suivre. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de suivre le premier venu dans la rue. On connaît, on entend, on voit, on a entendu parler d'eux. Et alors Jésus appelle. Et les gars, ils laissent les uns leur barque, leur filet, les autres autre chose. Je pense même que Lévi, qui était collecteur d'impôts et à l'occasion un peu voleur, je pense même que lui se disait, mais... Waouh, ce gars-là, ce Jésus, moi j'aimerais bien le suivre. Mais je suis voleur. C'est un rêve inimaginable. Et cette femme possédée, prostituée, Marie de Magdala, pareil, impossible d'imaginer. Alors, je rêve d'un rêve inaccessible. « Et le Seigneur agit. Et le Seigneur se manifeste de sorte que les uns et les autres deviennent disciples et marchent à sa suite. Je pourrais m'arrêter là en disant que le Seigneur met dans nos cœurs, dans ton cœur, comme dans le mien, des rêves qui parfois sont de l'ordre de l'impossible, de l'inimaginable. Mais que Dieu veut peut-être honorer. Et ces rêves-là, c'est pas seulement pour les ados, c'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est aussi. Mais c'est aussi pour, dans chaque tranche de vie, le Seigneur dit, j'ai moi-même implanté dans ton cœur des rêves afin de les vivre avec toi. Je m'égare un peu, mais pas vraiment. Si on revient à Jésus, moi j'ai tendance à croire ou à penser que Jésus ne rêvait pas de miracles et de guérisons. Je ne pense pas que Jésus rêvait de voir des grandes foules pour l'écouter. Je ne suis pas sûr non plus que il avait envie d'être connu et reconnu, ou que les gens le suivent. Je ne suis même pas certain. Je vais dire une bêtise. Hein. Après, vous faites le tri, c'est pas grave. Mais je ne suis même pas certain que Jésus rêvait d'être continuellement en intimité avec Dieu le Père, parce qu'il était déjà continuellement dans l'intimité du Père. Alors, quel était ton rêve, Jésus ? Jésus, ton rêve, c'est quoi quand tu étais sur terre ? J'ai l'audace de penser que le rêve de Jésus, c'était de faire ce pourquoi il était sur terre. C'est une réponse, mais c'est ça quoi. C'est je rêve de faire ce pourquoi je suis là. Ça vous avance pas grand chose de plus. Oui, ah oui, absolument. Alors j'ai quand même un verset sur lequel que je voudrais qu'on regarde. Vous n'avez pas trop chaud, vous ? Non ? Parce que moi, je j'étouffe. Mais bon, c'est pas grand-chose. On va mettre le verset de Colossiens, au chapitre 1er, les versets 19 et 20. Donc c'est rêver avec et pour Jésus. Et donc le verset... que je trouve répondre un peu à cette question, c'est celui de Colossiens 1, 19 et 20. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui, donc en Jésus, toute plénitude. On pourrait même dire toute sa plénitude. Et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et dans une autre traduction, en lui, Jésus, toute la plénitude de l'éternel Dieu Père Céleste, donc, c'est plus à habiter. Et par lui, la plénitude, c'est plus à réconcilier toutes choses avec elle, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En fait, j'ai entendu hein, que le Seigneur est venu pour sauver, etc. Mais ce texte-là nous transporte. En fait, il ne vient pas réconcilier toute personne avec lui, mais toute chose. Et toute chose sur la terre, ok, mais aussi dans les cieux. Souvent, nous sommes, notre sphère de conception et de pensée et de ce qui se vit sur la terre, mais Jésus est venu pour faire bien plus que cela, bien plus que réconcilier seulement, mais c'est déjà pas mal, toute chose sur terre, avec le Père, il le fait aussi, la réconciliation dans les cieux, sont des choses qui nous dépassent un peu, et en tout cas, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le propos, c'est tellement profond qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin ce matin, en tout cas, ce n'est pas le texte, ce n'est pas le but, mais waouh, le rêve de Jésus, c'est effectivement de faire la volonté du Père, et la volonté du Père, c'est que Jésus... soit tellement ouvert que Dieu, dans sa plénitude, est venu habiter en lui et se manifester au travers de lui. Et que, par le fait de la mort sur la croix, il réconcilie avec lui-même, donc avec le Père, toutes choses. Et toi, j'allais dire, ton rêve, c'est quoi ? Quel est ton rêve ? Mariage, famille, éducation des enfants, maison, sécurité financière ou de santé ? C'est légitime, hein ? J'allais dire, moi, je n'ai pas de critique... à émettre à ce sujet-là. Moi, j'ai eu des rêves. Alors, le premier rêve, me semble-t-il, que j'avais, c'était tuer mon père. Donc... c'était pas pour Dieu, c'était pas avec lui non plus. Mais en fait, j'ai nourri pendant des années le rêve de le faire et de le tuer avec mes pieds et mes mains parce que je voyais que c'était comme ça qu'il cognait ma mère qui était par terre et qui continue à cogner. Et je rêvais d'être assez fort... pour affronter mon père de cette manière-là. Et pour ce, pendant des années, je me suis exercé en cassant la figure à des gens que je voyais dans la rue pour m'exercer. Alors j'en recevais, mais je sortais pas souvent ou toujours vainqueur de ce genre de truc, mais bon, c'était ça. Lors de la conversion, forcément, les choses ont changé. Et le rêve qui a alors été le mien, c'était de dire, mais le Seigneur s'est tellement manifesté dans ma vie que j'ai envie, Seigneur, que tu te serves de moi. Parce que j'ai conscience de ce que tu es, de qui tu es et de ce que tu as fait dans ma vie, et je souhaite que ma vie te soit... utile et que je sois utile aux autres. Alors je pensais pas du tout être pasteur. C'était vraiment pas un de mes rêves, quoi. Mais servir Dieu et Donc je suis allé dans des écoles bibliques, je me suis fait virer. Voilà, je suis allé dans une église pour apposer carrelage, etc. Et puis je me disais, ben moi, mon rêve à cette époque-là, c'était d'aller d'église en église pour apporter en même temps, faire des travaux pratiques dans l'église, changer les ampoules, faire, et puis en même temps aller dans la rue pour évangéliser parce que c'est ce qui me tenait à cœur. Et puis au fur et à mesure, ben, le Seigneur a conduit, a dirigé les choses pour me faire vivre d'autres choses, mais qui étaient toujours dans la même veine. Servir le Seigneur et servir les hommes. Cela dit, il y a des rêves qui sont les miens depuis plus de 40 ans et que je n'ai toujours pas vécu. Pourtant, j'avais l'impression que c'était le Seigneur qui m'avait donné ses rêves, qui me les avait, inspirés de la même manière que je crois que c'est le Seigneur qui a mis le rêve de la délivrance du peuple en Moïse, ou le rêve de David, puisqu'on parlait de lui, vis-à-vis de Goliath, parce que ça faisait partie aussi de son cheminement pour arriver, j'allais dire, au fur et à mesure, à vivre ce que Dieu, la destinée que Dieu avait pour lui de toute éternité. Donc il y a des rêves que je n'ai pas encore réalisés et qui ne se sont pas encore réalisés et je suis frustré. Parce que quand on ne vit pas ce qu'on espère, c'est frustrant. Enfin, vous, j'en sais rien, mais chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ça s'exprime des fois par des râles à Dieu en disant, mais si c'est toi qui mets dans mon cœur des rêves et que tu ne les réalises pas, c'est pas sympa. Ouais, je suis râleur, des fois. Comment ça, des fois seulement? C'est Daniel qui parle. Comme si elle me connaissait. Ah. Cette semaine, j'ai lu, j'ai entendu des choses qui convergent un peu vers cette idée que le Seigneur semble dire, mais continue à rêver avec moi, quoi. Continue à rêver avec moi. Continue à rêver mes projets. Vendredi, donc, c'est pas vieux, hein, c'est pas vieux du tout. J'ai lu cette phrase, « Nous avons été créés pour rêver avec Dieu et vivre notre vie de manière surnaturelle. » Moi, je trouve ça, j'ai dit, ah, Bernard, t'es obligé de t'arrêter un peu pour réfléchir. Réfléchis à ça, Bernard. Donc j'ai dû m'arrêter un peu pour méditer sur le sujet, ce qui donne l'enseignement ce matin. Tu as été créé pour rêver avec Dieu et pour vivre ta vie de manière surnaturelle avec lui. En même temps, c'est sympa. Et en même temps, on dit, mais alors Seigneur, comment? Parce que c'est pas le tout d'avoir un truc comme ça, mais après, il y a la phase pratique. Comment est-ce que tu veux que je vive ce que tu me dis? Parce que la phrase est belle, j'y adhère, mais pour le vivre, c'est un peu plus compliqué. À cette phrase, s'est ajouté d'autres, je vous disais, entre autres, entendu lundi, nous avions à quelques-uns un zoom, on dit, hein, avec un couple de Suisses, ministère prophétique. Eux nous disaient « Je crois que Dieu veut raviver cet amour qui va déclencher une passion et cette folie qui fait qu'on ose. Je vois pour vos ministères comme une flamme être ravivée pour retrouver presque une insouciance, une folie de la jeunesse. » Wow. Nous les vieux... Retrouver la folie de la jeunesse. Ouais, amen. Amen. Lorsque je me suis penché un peu là-dessus, tout de suite d'autres pensées ou paroles qui sont venues que l'on a reçues en tant qu'Église ou que j'ai pu recevoir. Personnellement, préparez-vous à un nouveau départ. Ouais. Ouais, sympa, mais ok. Comment on fait, Seigneur ? Mais c'est bien de le dire. Quelqu'un d'autre encore ? Je n'en ai pas fini avec vous. Remémorez-vous tout ce qui a été prophétisé il y a longtemps, des choses qui ne sont pas arrivées, trois petits points, des choses qui ne sont pas arrivées parce qu'elles sont destinées à aujourd'hui et non pas à hier. Je trouve ça aussi sympa que le Seigneur nous dise « Je t'ai fait des promesses, mais ces promesses... » de service n'ont pas pu être réalisés parce que c'était pas le moment. Alors des fois on se dit, mais alors ça sert à quoi les promesses si il faut attendre 40 ans pour les vivre? Ah mais je pense que Moïse, les 40 ans dans le désert, ça lui a servi. Hein. Il a été en formation. Et une des formations, j'anticipe peut-être un peu, mais une des formations, ça a été de changer et au lieu que ce soit toi qui fasses, laisse-moi faire. Alors on dit amen, hein, mais des fois moi aussi, hein, je dis amen. Après je dis bon, on fait comment ? Et cette parole dont je vous disais, continuez par « vous avez soupiré à vivre plus de surnaturel », trois petits points, ça vient. Ok. Blaise nous disait, ou relatait cette parole d'Habacuc à la fin du livre, « Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Même si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Et il disait, certainement, ça ne veut pas dire peut-être. Certainement, ça ne veut pas dire peut-être. Ça veut dire certainement. Ça veut dire oui. Ça veut dire je veux le faire. Continuez à garder ce que Dieu vous a donné, parce que là, vous êtes sur le déclenchement, et ce serait juste dommage de lâcher maintenant. C'est sûr. Depuis un moment, il me semble que le Seigneur nous dit, contrairement à ce que vous voyez avec vos yeux humains, de ce que vous vivez d'une manière personnelle, ou de ce que vous vivez d'une manière communautaire, contrairement à ce que vous voyez, vous, d'une manière humaine, moi j'ai le désir, dit le Seigneur, de vous donner un regard spirituel sur les choses, surnaturel. En fait, un des soucis de l'Église aujourd'hui, mais quand je dis aujourd'hui, ça a toujours été. Et un des soucis de notre communauté, si nous n'y prenons pas gaffe, c'est de faire l'Église au lieu d'être l'Église. Faire l'Église, c'est facile. C'est organiser des cultes, c'est organiser des temps de prière, c'est organiser. Et nous pouvons organiser l'Église, on en a parlé beaucoup au mois de novembre, nous pouvons organiser l'Église et entendre le Seigneur dire « Je frappe à la porte et je désire entrer ». Parce qu'on peut organiser les choses sans que le Seigneur ne soit là, présent, et sans que l'Esprit-Saint soit le conducteur de l'Église. On peut organiser l'évangélisation, les actions sociales, les rencontres pour les enfants, les ados, les jeunes, etc. Enfin bref. Mais si on n'y prend pas garde, on fait l'Église sans être l'Église. Parce qu'être l'Église, c'est être conduit par le Seigneur lui-même. J'avais envie de me détendre cette semaine et j'ai regardé la fin, parce que je suis arrivé sur la fin, d'un reportage d'un jeune qui a fait à vélo des kilomètres à vélo dans un des pays de l'Est. Et à la fin, quand le générique est passé, il y avait en grand, en gras, cette maxime « Quand rien n'est prévu, tout est possible ». Et je me suis dit « Ah !» Quand est-ce que nous allons pouvoir vivre, ou nous allons avoir l'audace de vivre des choses que nous ne prévoyons pas pour pouvoir les vivre? Nous le disons souvent en introduction dans la prière, « Conduis et dirige ce temps de célébration comme tu le veux ». Mais si on lui dit ça, il faut qu'on soit aussi malléable pour qu'il puisse y avoir des changements ou des choses qui se vivent dans les célébrations qui ne sont pas prévues, quoi. S'il y avait une délivrance démoniaque au milieu de nous, ou une guérison, ou autre chose, enfin, que sais-je. Parfois, on souhaite que les choses soient bien cadrées, parce que c'est sécurisant. Mais parfois, l'Esprit-Saint voudrait peut-être que l'on ne puisse rien prévoir pour que ce soit lui qui soit le conducteur de toutes choses. Et je reconnais, je dis, avec simplicité, que c'est quand même pas évident. C'est pas si facile que ça. Si nous étions venus ensemble ce matin, et puis qu'à 10h10, on dise « Bon, ben, on fait quoi ?» Faudrait essayer, mais on fait quoi ? On prépare pas les chants, prépare pas de méditation, prépare pas la scène, prépare rien. Pas si évident que ça, hein. Ni pour vous, ni pour nous. J'allais dire que nous, quand je dis nous, c'est les responsables. Pas si évident que ça. On peut avoir des grandes envolées, des grandes envies, mais c'est pas évident. Cela dit, je pense personnellement que ce qui est important, c'est d'avoir sincèrement, d'une manière honnête et authentique, de dire Seigneur, si tu veux que nous vivions ça, alors fais-le nous vivre. Hein? C'est juste ça, quoi. Je crois que le Seigneur nous prend au mot. Lorsque nous sommes honnêtes et sincères, moi, ça me fout la trouille. Si c'est ça qu'il veut, alors faisons-le. On va pas commencer dimanche. J'en sais rien. Il faut que ça pénètre dans nos cœurs et dans nos vies. En ce qui me concerne, je parle d'autre chose, les années passant, c'est une espèce de désillusion qui s'est installée dans ma vie. Avec la désillusion s'est installée aussi le fait de se dire « Bon, Bernard, tu prends de l'âge, sois plus sage. » Et il semble justement que là, le Seigneur m'attend, moi, vous attend, vous, pour dire, ou reprendre l'expression qu'on nous a dit à peu près lundi, c'est « soyez des passionnés fous ». Soyez fous pour Dieu. Dépassez votre sagesse. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi, hein. Dans ce qu'il nous disait, il nous donnait comme exemple la folie du jeune qui est amoureux et qui va faire des kilomètres pour retrouver sa belle en mobylette, etc. C'est de la folie, mais soyons fous. J'ai l'impression que le Seigneur me dit, nous dit, moi je suis toujours le Dieu de l'impossible. Parce que nous l'avons lu, parce qu'il est le Dieu de la plénitude. Et que à lui, rien n'est impossible. Alors on le croit, en tout cas on le dit, on le proclame, mais c'est pas évident. Et cette semaine encore, le Seigneur me disait, mais hey, Bernard, pourquoi tu ne me fais plus confiance ? Ah Seigneur, c'est parce que je vieillis. C'est parce que je deviens sage. Qu'en est-il de vous, de toi? Ça a été plus loin. Ah, des fois, je vous dis ça comme ça, on est juste entre nous, hein, mais des fois, je trouve que Dieu est casse-pied, quoi. Parce qu'il va plus loin. Bernard, pourquoi fais-tu ? Ou pourquoi... Pourquoi ton attitude fait comme si j'étais mort ? Ne suis-je pas le Dieu vivant ? Ah ouais, Seigneur, tu étais le Dieu vivant il y a 40 ans quand tu as mis des choses dans mon cœur. Depuis 40 ans, ben c'est mort. Ça a vieilli. Ah ouais. T'as raison. Euh, pourquoi fais-tu ? Ou pourquoi as-tu une attitude comme si j'étais un dieu mort ? Ou presque mort. Il était sympa, c'était ça, presque mort. C'est justement quand ça devient impossible que je suis Dieu. Et je me suis remémoré une parole que je disais souvent à certains moments, c'est « la foi commence là où mes possibilités humaines s'arrêtent ». La foi commence là où mes possibilités humaines s'arrêtent. Sinon, ce n'est pas vraiment la foi, sinon c'est la foi en mes capacités humaines, mais pas dans les capacités surnaturelles de Dieu. Et nous savons que le Seigneur souvent n'agit pas quand l'homme peut agir par lui-même. Il intervient là où c'est vraiment pas possible, quoi. Tous les évangiles nous montrent Jésus qui arrête la tempête parce que c'était pas possible, multiplie le pain, va dire à Pierre, tiens, tu vas pêcher un poisson, hop, et tu vas prendre dans sa bouche une pièce de monnaie pour payer l'impôt. Enfin, c'est un truc complètement dingue, quoi. Il a même pris Philippe, quand il a fini de baptiser Philippe le nuque, là, hop, il était Philippe et s'est retrouvé ailleurs. Ouais, souvent, j'ai dit au Seigneur, mais ben, Seigneur, il y aurait quand même moins de pollution si tu faisais ça avec nous, quoi. Hop. Tout d'un coup, on n'est plus là, on est là-bas et on gagne du temps et on fait gaffe à la pollution. Mais bon, ah, c'est de l'humour, mais as-tu des rêves comme Jésus en avait ? Si oui, lesquels sont-ils ? Et donc, je pense que le Seigneur nous dit, arrête de dire que tu es trop jeune, comme il l'a dit à Jérémie. Arrête de dire que tu es trop vieux. Arrête de dire que tu es une femme. Arrête. Arrête parce que moi je suis le Dieu de l'impossible. Arrête de dire je ne suis pas assez formé. Arrête de dire j'ai trop de boulot. Acceptons la folie de Dieu en nous, au travers de nous, avec humilité et authenticité. Vous vous rappelez, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 25, « Ce qui paraît folie en Dieu contient plus de sagesse que ce qui vient des hommes. » Encore une dernière parole alors. Me bousculant. Dieu libère. J'ai lu ça mercredi, je crois. Dieu libère un niveau d'intimité plus profond que ce que nous avons connu auparavant. Et là aussi, je dis amen. Beaucoup seront éveillés à une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Cette parole, continuait le texte, cette parole est pour ceux qui ressentent qu'ils n'ont plus la passion du début, du premier amour. Et d'exhorter, entrons en présence de Dieu dans l'humilité, juste pour être avec lui, afin qu'il insuffle en nous sa vie. Qu'il insuffle sa vie en nous. Jésus avait pour rêve, je le dis comme ça, de réconcilier toutes choses sur la terre et dans les cieux, ou dans les ciels, en versant son sang à la croix. Et le Seigneur met lui-même en nous, par l'Esprit Saint, des rêves qu'il veut vivre avec nous. Il met des rêves dans nos cœurs et il dit, nous allons les accomplir ensemble. Je mets des rêves dans ton cœur afin de les vivre avec toi. Ça, c'est personnel. Pour la communauté, je mets des rêves dans ton cœur, communauté chrétienne, afin de pouvoir les vivre ensemble. Le Seigneur met des rêves au niveau des églises angevines. Je mets des rêves au milieu de vous afin que je puisse les accomplir avec vous. Nos rêves ne sont pas pour nous enorgueillir, pour nous réaliser. Et c'est peut-être une des choses, je fais juste une parenthèse, mais attention à ce que nous ne nous réalisions pas en tant que personne au travers de l'Église. C'est pas fait pour ça. J'allais dire, c'est pas, je veux, au travers de ce que je vis comme service dans l'Église, je veux avoir une reconnaissance. C'était juste une parenthèse. Le Seigneur ne nous appelle pas à être les sauveurs du monde parce que lui, il a déjà été. Pas la peine de prendre sa place. Mais dans l'humilité, dans la foi, dans la joie, dans l'enthousiasme, laissons-nous saisir par l'Esprit Saint afin que nous puissions avec lui accomplir les rêves. As-tu un rêve ? Si tu es jeune et ado, tu peux te dire, il y a encore le temps. Mais si tu es ado et si tu es jeune, je t'encourage déjà maintenant à avoir des rêves et tu les écris sur ton ordinateur si tu en as un, ou quelque part, ou dans un cahier. Écris. Tu es ado, tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, écris, j'ai un rêve que je voudrais vivre avec Dieu. Tu es jeune, écris ton rêve. Voilà ce que j'aimerais vivre. Tu mets la date, n'oublie pas la date. Même si ça passe, même si les années passent, continue à croire ou en tout cas te laisser conduire et diriger par le Seigneur. Tu es plus âgé et ton rêve est dans le placard, peut-être qu'il faut le sortir du placard. Parce qu'il n'est peut-être pas éteint et peut-être que le Seigneur veut t'encourager, nous encourager à avoir de la passion avec un peu de folie. La synergie de tes rêves, des miens, des nôtres, pour servir Dieu ensemble, pour refléter dans notre société l'amour du Seigneur, voilà ce que je vous propose, de mettre en synergie nos rêves, pour pas que nous soyons seulement des individus, mais que nous soyons une assemblée, une communauté qui, rassemblant les rêves, les qualités, les capacités, les dons des uns et des autres, nous permettent de rayonner l'amour du Christ dans la ville, dans le département, dans la ville, dans le pays dans lequel nous sommes. Prions. Seigneur, on vient vers toi. Nous venons vers toi peut-être te dire, en tout cas moi, c'est mon cas, c'est aide-moi à sortir certains de mes rêves du placard. Travaille mon cœur et ma vie pour que tu ne sois pas un Dieu presque mort, mais qu'au contraire tu sois un Dieu vivant qui agit pour que l'impossible se réalise. Je te bénis et je te loue parce que chacun d'entre nous est concerné. De l'ado à la personne la plus âgée, tu es celui qui veut vivre les rêves que tu as placés dans nos cœurs, tu veux les vivre avec nous, d'une manière individuelle et d'une manière communautaire. Alors oui, Esprit Saint, viens, viens et ranime ce qui a pu s'éteindre ou ce qui reste juste un lumignon. Souffle sur les braises de toutes petites de nos rêves afin que ils s'enflamment à nouveau et qu'ils vivent, qu'il y ait une réalisation avec toi. Conduit non plus par nous, selon nos conceptions, mais avec toi, conduit par l'Esprit Saint. Seigneur, tu sais que c'est un peu dans la crainte, parce qu'on veut parfois contrôler les choses, mais nous venons vers toi, je viens vers toi, je dis mais... tout ça, tout le contrôle, tout ce que je voudrais pouvoir maîtriser, je le laisse à tes pieds ou entre tes mains et viens agir au-delà de ce qui m'est possible, nous est possible de faire et de vivre. Tu es le Dieu de l'impossible et je te prie pour que dans quelques mois, nous puissions nous rappeler de cet enseignement pour dire « Le Seigneur nous a conduits à ranimer, raviver la flamme qui nous fait vivre des choses que nous avions espérées et que nous n'avions pas encore vécues et que nous avions laissées au placard, mais par ta grâce, Seigneur, tu les as réalisés. Viens, Seigneur Jésus, réaliser nos rêves que tu as mis dans nos cœurs. Viens les réaliser avec nous. Nous t'en prions et nous t'en remercions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.